pas beaucoup de châteaux chez nous, vous l'aurez remarqué, mais en revanche, énormément de chapelles avec leurs calvaires et aussi les fameux enclos paroissiaux. Ces enclos qui ont de l'ambition. Jean Causeur va nous expliquer pourquoi.
Le conseil départemental veut faire reconnaître les enclos paroissiaux au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vincent Krachnik, chargé de mission pour le conseil départemental, est en charge de ce projet. Il va nous expliquer pourquoi ces enclos ont toutes leurs chances d'être reconnus par l'UNESCO.
Donc un enclos paroissial, déjà c'est une forme particulière. Enfin, nous, peut-être finistériens, on a l'habitude, peut-être, on vit avec sans s'être posé la question peut-être, mais disons que c'est la conjonction effectivement, une église. Alors, la plupart du temps, paroissiale, on va voir qu'il y a quelques exceptions, mais donc l'église paroissiale avec une clôture. Et à l'intérieur de cette clôture, on va déjà avoir souvent une porte triomphale ou une entrée un petit peu significative dans cette partie fermée, close, qui sépare le monde profane du monde sacré. Et à l'intérieur également de cet enclos, on va retrouver un ossuaire, un calvaire, et l'église, elle va avoir des éléments de monumentalité particulière, c'est-à-dire qu'elle va avoir un clocher assez spectaculaire, ainsi que ce qu'on appelle un porche sud, c'est-à-dire une entrée au sud, particulièrement aussi décorée et sculptée. Et à l'intérieur de l'église, on va avoir, dans les paroisses qui étaient les plus riches, des retables, c'est-à-dire des éléments sculptés, une chaire à prêcher, etc. Enfin, des éléments souvent avec des décors, notamment baroques, extrêmement importants. Et ces enclos, en tous les cas ceux qui seraient susceptibles d'être dans la candidature, ils ont été construit, décoré dans ce qu'on appelle l'âge d'or de la Bretagne, donc une période particulièrement faste économiquement de la région, et dans cette région, particulièrement dans des zones qui étaient, donc ce Nord Finistère, Pays de Morlaix, Pays de l'Andivisio notamment, qui étaient des zones de production de lin très importantes. Enfin, je fais court, mais en tout cas, la production de lin faisait une richesse, ou permettait une richesse particulière de paysans, négociants ou producteurs et vendeurs, en fait, dans des zones rurales. Donc ils avaient, parce que la situation internationale faisait que la Bretagne exportait notamment ce lin, et se retrouvait au cœur d'un système économique entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, en fait, parce qu'on avait une circulation maritime qui faisait qu'on vendait vers l'Angleterre, vers les Pays-Bas, ou bien vers l'Espagne, et puis après vers les Amériques, etc. Enfin, donc en tous les cas, une richesse absolument incroyable, qui a permis à ces paysans négociants d'avoir un certain nombre de revenus. Mais ce qui est particulier, c'est que ces personnes ont décidé de réinvestir finalement ces revenus importants, non pas uniquement dans des hôtels particuliers, ils auraient pu se faire construire des demeures. Ils ont décidé collectivement, étant membres de ce qu'on appelait les fabriques, en fait, c'est-à-dire un peu les ancêtres des conseils municipaux, mais dans une autre dimension, enfin en tout cas pour leur paroisse, ils ont décidé que effectivement du moins qu'ils allaient pouvoir effectivement construire ou reconstruire ou améliorer leurs églises paroissiales, en tout cas mettre l'argent au profit de la paroisse. On dispose de moyens importants. Deux, la Bretagne est au cœur des échanges avec l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, ce qui fait qu'elle va aussi avoir des influences artistiques, alors bien qu'ils peuvent venir d'ailleurs en France. Donc voilà pourquoi on peut avoir des décors d'architecture classique, parce qu'il y a des modèles architecturaux qui circulent. Alors non seulement pour le château de Kerjan à Saint-Voguet dans le Nord Finistère, en fait, qui va avoir des formes de vraie renaissance architecturale. Et c'est les artisans qui vont travailler pour la construction du château de Kerjan, ils vont aussi aller travailler dans des paroisses pour des églises. Donc on va avoir des décors classiques Renaissance. On va avoir évidemment parce qu'on est, je ne l'ai pas dit, on est entre le XVIe et la fin du XVIIe siècle, en fait. Donc, on a eu le gothique flamboyant à certains endroits, donc l'architecture de la Renaissance qui apparaît, et aussi le baroque qui naît, en fait. Et donc, artisans pour la partie architecturale, artisans également qui vont venir, qui vont être les sculpteurs de la marine ici à Brest, qui vont aussi permettre des constructions absolument incroyables de décors, de sculptures, de blochets, à l'intérieur des églises, en fait. Donc, circulation d'artisans, d'artistes en France, et influence artistique aussi étrangère avec des modèles qui peuvent venir d'Europe du Nord, qu'on va retrouver dans des vitraux, dans des sculptures, etc. Donc en fait, on a une conjonction de choses, c'est-à-dire un âge d'or économique, social, culturel, artistique, des influences européennes qui viennent du Sud, du Nord, un territoire particulier, et donc ces éléments constituent un patrimoine on constitue un patrimoine particulier qui a été conservé dans un certain nombre d'endroits, de paroisses. Dans certaines communes, les églises ont pu évoluer, etc. Les éléments de l'enclos ont pu disparaître ou pas. Et le contexte aussi, je l'oubliais, il est quand même relativement important parce qu'on est sur des éléments religieux. Et le contexte, c'est celui de ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire l'Église catholique qui va réagir à l'arrivée de la réforme protestante au XVIe siècle et qui va avoir une volonté de se réformer elle-même et notamment de de former, d'informer les fidèles sur la nature du rite, de ce qui est exprimé dans la Bible, les évangiles, etc. Et c'est voilà pourquoi aussi on va retrouver dans les calvaires, effectivement, ces calvaires qui vont être parfois monumentaux, ils vont avoir en éléments sculptés, en fait, finalement, on va raconter des scènes de la Bible ou des évangiles, de la même manière que dans les retables à l'intérieur de l'église, on va aussi avoir l'expression et ces sculptures particulières dans des styles, sont aussi l'expression de ce contexte religieux de la contre-réforme, quoi, en fait. Donc on a une conjonction de facteurs qui a donné naissance à un patrimoine particulier, riche, artistiquement, qui a été dans beaucoup d'endroits conservé au fil des siècles. Et en fait, c'est la nature même de ces éléments-là, leur concentration aussi, c'est ce qu'on va appeler en fait un bien pour l'UNESCO, en fait un bien en série, c'est-à-dire d'avoir sur un territoire, évidemment les églises elles sont chaque fois uniques, mais disons il y a une espèce de répétition sur un territoire de quelque chose de format particulier qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Donc voilà, un peu pourquoi est-ce que les enclos pourraient mériter d'être labellisés au patrimoine mondial.